Vous êtes de retour à Délirium environnemental. Patrick Bonin avec vous cette semaine à l'animation. Délirium environnemental, je pense qu'il faut le spécifier pour vous parce que des fois, il y a des nouvelles qu'on traite de façon trop rapide et elles méritent qu'on y porte attention sur le site internet www.radiodelirium.net. Eh bien, vous allez avoir notre site et toutes les nouvelles dont on vous parle. Vous avez des liens pour les consulter. On vous invite à le faire. La semaine passée, on parlait justement d'une nouvelle loi qui a été passée au Québec pour réduire la coupe de bois. Et on se posait la question, mais que va-t-il arriver avec les fameuses régions qui vont perdre probablement des emplois? Semble-t-il que le gouvernement a réagi. Nicolas Mainville, qui connaît très bien le dossier, va nous en parler.
Mais c'est un gros dossier, en fait. Puis je pense que les pressions de l'opposition, M. Landry en particulier, ont été assez sévères la semaine passée. Et puis, on reprochait justement à M. Corbeil, ministre des Ressources naturelles, de ne pas avoir de plan d'atténuation de ces diminutions de possibilités forestières de 20 %. Vous savez qu'en ce moment, il y a des gros chiffres qui sont véhiculés. On parlait même jusqu'à 10 000 emplois qui seraient affectés par ces diminutions de coupes-là.
Je rappelle qui ont été critiqués d'ailleurs parce que les gens ont eu de la difficulté à cibler exactement, mais d'où viendraient ces fameuses 10 000 emplois perdus?
Tout à fait. Et puis, écoutez, M. Corbeil est allé finalement avec une stratégie. La semaine passée, en fin de semaine, jeudi passé, 24 mars, on a appris que M. Corbeil allait y aller d'une stratégie, non pas d'une stratégie seulement des ressources naturelles, mais bien une stratégie commune avec trois autres ministères, et je les nomme, ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Affaires municipales et régions, et puis Développement économique, Innovation et exportation, qui se sont mis ensemble pour faire une annonce de stratégie. Et cette stratégie serait surtout centrée sur une stratégie d'élaboration de contrats de développement et de diversification pour les régions. Alors, cette nouvelle appellation, en fait, très innovateur comme thème, apparemment, ferait en sorte qu'il n'y aurait aucun emploi de perdu en région. C'est les déclarations de Corbeil la semaine passée. Monsieur Corbeil, pardon. Alors, évidemment, ces déclarations-là sont... je dirais accepté dans la tribune sur les forêts de façon un peu sceptique, puisque de passer de 10 000 emplois jusqu'à zéro, on est sceptique. Hein?
Je pense que c'est surtout le fait qu'il y a eu beaucoup d'improvisation lors des deux dernières années avec ce gouvernement, donc une belle initiative peut-être de rassembler justement différents ministères ensemble. Je pense que l'idée est bonne à la base et que ça mérite peut-être d'être approfondi. Hein?
Tout à fait, mais en fait, il y a une série de mesures qui sont proposées par ces ministères-là, ministères qui vont se promener dans les régions, justement, pour élaborer cette stratégie qui n'est pas encore fixée, mais il faut s'entendre que le dossier de réduction de 20 % est seulement la première mesure proposée par le rapport Coulombe, vous savez, la commission Coulombe sur la gestion de la forêt québécoise. Une fois que ce 20 %-là va être atteint, en fait, on vise 2008, vous savez qu'on a reporté les plans généraux d'aménagement forestier jusqu'à 2008. À partir de là, il va y avoir toute une stratégie de mise en œuvre de la commission Coulombe, en fait, une réorientation générale de la gestion forestière québécoise, puisque ce que Coulombe nous dit, c'est qu'on s'en va vers un mur et si on se réajuste pas, malheureusement, ce mur-là va frapper très dur. Alors, les réajustements essentiels qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire les réductions de 20 %, je dirais, sont reçus de façon très sceptique dans les communautés exploitantes de bois, exploitatrices, mais bon, c'est évidemment un essentiel. Donc, Corbeil s'en va avec une stratégie. On a hâte de voir directement sur le terrain comment que ça va s'appliquer.
Et c'est beau de les voir réagir par la suite parce qu'ils ont quand même passé cette loi-là sur la diminution des coupes avec le baillon, on s'en souvient. Peut-être qu'il y aurait eu intérêt à attendre un petit peu plus et à davantage élaborer leur stratégie.
Ce qui est important, juste pour rappeler, c'est qu'il n'y a aucun argent qui va être rajouté dans cette stratégie-là. Donc, ça a été encore plus sceptique comme réception.
Hein. Ils font des miracles, c'est magnifique. Hugo Lachapelle va nous parler d'un dossier très chaud dont on a eu l'occasion d'entendre parler ici à Délirium. Eh bien, c'est le Mont Orpheur. On voulait exploiter le tout, exploiter le parc pour faire des aménagements. Eh bien, semble-t-il que le Bureau d'audience publique en environnement a donné sa réponse la semaine passée.
Eh bien, oui, ça y est, c'est fait. On se rappelle du projet du parc du Mont Orpheur qui proposait la construction de 1400 unités de logement dans une zone où l'intégrité écologique...
Un parc, oui.
L'intégrité écologique était déjà légèrement perturbée par les activités de la station de ski. Et là, on voulait proposer 1400 unités de logement, un terrain de golf et machin truc. Le promoteur, lui, voulait acheter des terrains aux alentours pour pouvoir faire un échange pour pas que le père le parc ne perde en surface. C'est ce qui était prévu dans le projet. Eh bien, suite à plusieurs tergiversations, finalement, le BAP a conclu, et je cite, que l'échange de terrain et la construction d'unités d'hébergement porteraient atteinte à l'intégrité écologique du parc national du Mont-Orford, et le BAP s'est donc proposé contre le projet tel quel, en demandant qu'il y ait d'autres options qui puissent être examinées, parce qu'il y a quand même un besoin économique dans cette région-là, et on a montré une certaine ouverture. Monsieur Mulclair acclame la réponse du BAP, tout en se montrant ouvert à faire avancer le dossier. En fait, Monsieur Mulclair a décidé de
lancer... de l'Environnement, bien sûr.
C'est oui, ministre de l'Environnement, pour le moment. Sait-on jamais s'il le restera pendant longtemps, c'est la question. Mais pour le moment, M. Mulcair veut lancer un comité de concertation régionale dont lui-même, personnellement, assumerait la présidence pour définir un projet qui serait approuvé par la société en respectant les principes de développement durable, d'intégrité écologique et de ski dans le soleil.
Eh bien, sans connaître son horaire du temps, en fait, son emploi du temps, je vous conseillerais, M. Mulcair, de laisser ça à quelqu'un d'autre parce qu'il y a beaucoup de dossiers que vous ne prenez pas le temps d'essayer d'approfondir. Mais bon, on ne peut pas tout faire. C'est toujours des règles environnementales. On vous parlait du Bureau d'audience publique en environnement qui a statué sur le cas d'Orford. Eh bien, il y a un projet, la 175, soit la route qui relie Québec à Chicoutimi, où on veut faire justement des aménagements pour élargir cette autoroute. Et il y a encore eu une fois des développements à ce niveau. Que se passe-t-il, Hugo Lachapelle?
Oh! Mais effectivement, en fait, on peut-tu faire la nouvelle, Nicolas, juste avant?
T'étais pas prêt?
J'étais en train de me moucher.
Et voilà, Hugo qui a la grippe, donc on va lui pardonner. Pauvre étudiant en grève, il n'a même pas le temps de se moucher. Nicolas Mainville va nous parler de Chine, d'abord. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il en Chine et les forêts de Chine, ou plutôt de Russie?
Alors, le BAP de la Chine a stipulé que les... Excusez-moi. Non, grosse nouvelle, en fait. Ça me fait plaisir de vous en parler, parce que, vous savez, la Chine, c'est le réveil du dragon. Hein. On sort les nouvelles à chaque semaine sur comment l'activité industrielle de la Chine et le réveil économique de la Chine a des répercussions environnementales majeures. Et puis, cette fois-ci, je vais vous parler des forêts russes qui sont grandement affectées par l'activité industrielle de la Chine. Et puis, la Chine qui a décidé d'orienter directement son apport en bois de la Russie. En fait, on parle de 50% du bois maintenant qui rentre en Chine provient de la Russie.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, parce que, vous savez, la Russie, le problème, c'est que la gestion forestière russe est relativement illégale si on considère les traitements qui sont faits à la forêt, c'est-à-dire la prépondérance des coupes à blanc, le non-respect de la biodiversité et de l'intégrité écologique, et puis surtout l'abondance de coupeurs de bois illégaux qui se promènent sur le territoire russe et qui vont vendre ces bois coupés de façon illégale en Chine. Et puis, bon, on parle environ entre 30 et 50 % du bois coupé en Russie qui serait illégal en ce moment, évidemment, de fournir un gros consommateur comme la Chine. Vous savez que la Chine est maintenant le deuxième consommateur de bois au monde. Après quel pays?
États-Unis.
Ah bon, regardons.
Évidemment.
Alors, les États-Unis qui sont les premiers, évidemment, vont provoquer des conséquences environnementales majeures. Suite à cette nouvelle, qui en fait c'est un rapport du Fonds mondial pour la nature qui nous dit, écoutez, si la Chine rentre à fond la caisse comme ça en Russie, on s'attend à des conséquences environnementales désastreuses pour l'avenir même de la forêt russe. Eh bien, il y a une grosse annonce qui est sortie cette semaine sur un nouveau contrat qui a été alloué à la Russie. En fait, la construction de 7 usines de boîtiage et de pâte et papier en Russie. Le plus gros contrat alloué par la Chine à la Russie. En fait, on estime à plus de 200 000 tonnes de pâte et papier qui sortiraient de chacune de ces usines-là. Bref, tout ça pour dire que ça brasse des gros chiffres en Chine. Et puis, ce n'est pas du BAP qu'on parlait.
Hugo est de retour. Eh bien, bonsoir. Que dire, ma foi, on n'est pas sorti du bois. Hugo, d'accord. On revient avec la 175, Bureau d'audience publique en environnement, autoroute entre, non pas autoroute, mais route entre Québec et Chicoutimi. Que se passe-t-il, Hugo Lachapelle?
Eh bien, une route à quatre voies, ça peut, à toute fin pratique, ressembler pas mal à une autoroute, et c'est ce qu'on voulait faire à travers du parc de la Vérendrye, c'est comme ça que ça s'appelle?
De mémoire?
Le parc des Laurentides. Non.
Réserve faunique des Laurentides.
Réserve faunique des Laurentides, là, voilà. Alors, bien oui, il y avait un projet qui avait été proposé. En fait, ça fait longtemps qu'on veut faire une autoroute vers le Saguenay qui part de Québec. Et il y a des CRE et différents groupes qui ont déposé leur demande pour qu'il y ait audience publique. Audience publique devait avoir lieu, mais finalement, bon, les gens du CRE se sont un peu inquiétés quand ils ont entendu dire que le ministre lui disait que le projet il se ferait coûte que coûte. Alors les CRE se sont dit, bon ben écoute, au lieu d'aller perdre notre temps dans des audiences, on va demander des compensations. Ce qu'ils ont décidé de faire, essayer de négocier des compensations. On parle de 0,2% des frais du projet, un projet évalué à 700 millions, donc quelques 1,4 million de dollars qui pourraient être investis en compensation donc pour faire des aménagements aux alentours ou faire de la protection de la faune, de la flore.
Donc,
dans
les groupes environnementaux le voulaient faire une entente, ils avaient déposé une demande de Bureau d'audience publique en environnement et en retour d'1,4 million de dollars auraient retiré leur demande d'enquête.
Ils auraient été prêts à retirer leur demande d'enquête en se disant, ben là, si le ministre nous dit ça va passer, pourquoi perd-on notre temps? Là, c'est un peu drôle finalement, parce que les bureaux d'audience publique sont là pour faire des audiences, pour entendre ce que le public a à dire. Et là, c'est comme si un CRE, Conseil régional de l'environnement, qui peut souvent être un peu instigateur de ces bureaux d'audience publique-là, déciderait d'un peu régler les choses par lui-même à l'arrière. À l'arrière-plan, au lieu de forcer le pas pour que les gens se fassent entendre. Et ça, c'est un peu, bon, c'est mitigé, là, comme manière de fonctionner. Les gens au Saguenay, eux, sont pas très contents d'entendre ça. En fait, eux, ils veulent pas qu'il y ait des audiences publiques. Ça va prendre beaucoup trop de temps, selon eux. Et ils pensaient avoir M. Charest et Mme Françoise Gauthier, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec eux. Mais bon, par contre, ils considèrent que M. Mulclair n'est pas un allié du Lac-Saint-Jean. C'est un... En fait, il mentionne que M. Mulclair... Est-ce que j'ai lu « méprise le Lac-Saint-Jean » Oui, il parle de son mépris pour la région. Alors, on n'en a jamais entendu parler auparavant, mais bon.
Peut-être avant que M. Mulclair te fasse une poursuite pour diffamation, parce que ce n'est pas Mulclair, mais Mulcair. Eh bien, on se souvient que la semaine passée, M. Mulcair, ministre de l'Environnement, justement, a dû payer une grosse amende pour avoir tenu des propos, ma foi, virulents envers une personne. Et je vous invite à vous renseigner sur le dossier parce que c'est sa vie privée, quoique c'était à l'Assemblée nationale. Donc,
même le PQ qui demandait sa tête. Hein?
Un vrai pitbull.
Ouais.
Mais est-ce qu'on termine avec un petit pont musical et on revient avec les nouvelles en bref?
Ça me plaît.
Ben oui, on a plein d'autres petites nouvelles à vous parler. Eh bien, parce qu'il y a trop de nouvelles dans ce monde et que ce monde est grand et relié par la magie de l'ordinateur et d'Internet, nous sommes allés les chercher un petit peu partout et nous vous le traitons en bref un petit peu pêle-mêle. Qui se lance?
Eh bien, imaginez-vous donc au Brésil, Lula a finalement, le président brésilien, a finalement signé la loi qui légalise la culture des OGM. Eh bien, malheureusement, on avait quelques
bons espoirs.
Ouais, bons espoirs pour lui. Ça ne se passera pas. Alors, il y a une loi qui va, au moins, réguler ça, qui va légiférer là-dessus, qui va nous donner des lignes directrices. Mais bon, c'est dommage.
Moi, je vous parle des saumons rapidement comme ça. Les saumons, vous savez qu'ils sont une espèce représentative de la santé des écosystèmes. Et puis, le saumon du Pacifique serait en ce moment menacé, non pas par toutes les autres formes de menaces qu'on a souvent parlé, mais bien par les changements climatiques. C'est une étude qui a été faite par le Northwest Wildlife Federation qui nous dit, écoutez, si les températures continuent à monter comme ça dans nos rivières de l'ouest du Canada, on se retrouve à atteindre un seuil d'ici 2030 qui ferait en sorte que carrément l'espèce ne pourrait pas survivre dans nos rivières puisque cette espèce-là ne se reproduit pas au-delà d'une certaine température. Évidemment, des chiffres, je dirais, alarmants qui, encore une fois, sonnent l'alarme sur la question des changements climatiques et comment les espèces sont vulnérables à ces changements minimes, mais bien considérables.
Ils sont partout, ces changements climatiques.
L'année passée, on avait entendu parler d'une étude américaine qui mettait en doute la qualité du saumon d'élevage. En fait, on disait qu'il y avait probablement beaucoup plus de dioxines et de furanes. C'est quand même une grosse étude. Eh bien, il y a une tout petite étude de l'Université Laval et de l'Institut national de santé publique qui vient contrer ces résultats en nous disant que le saumon d'élevage, on s'est aperçu qu'il avait autant de dioxines et de furanes, autant d'oméga-3, bon point, moins de mercure que le saumon sauvage. Par contre, il avait plus de BPC. J'aimerais juste vous faire remarquer qu'on a étudié 46 saumons d'élevage et 10 saumons atlantiques. Alors, espérons que des décisions ne se prennent pas à tort et à travers sur quelques 46 poissons.
Suite à cette étude, rappelons qu'on parle de 6 fois plus de dioxines et de furanes dans les poissons d'élevage l'année passée.
À suivre, on vous rappelle peut-être que 75% des espèces de poissons commerciales à travers le monde sont surexploitées ou exploitées à la limite de ce qu'ils peuvent soutenir pour se reproduire, ce qui veut dire que posez-vous donc des questions un petit peu partout à travers le monde, là.
C'est bien dit, ça. Parlons-en du monde et de cette planète avec ces changements climatiques. Écoutez, il y a une étude par la NASA qui a été faite. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça date un petit peu, mais c'est important d'en parler. La question des émissions de suie, vous savez, ce carbone noir qu'on émet par la combustion de végétaux, les feux de forêt,
poêles à bois.
Les poêles à bois, entre autres, poêles à combustion lente, qui sont des grands émetteurs de suie. Eh bien, cette suie, apparemment, serait responsable d'un grand pourcentage des changements climatiques en Arctique. Vous savez que l'Arctique fond très rapidement. Et puis, on a découvert que les dépôts de suie sur les glaces arctiques provoquent une absorption de la chaleur et donc un moins de reflets de la lumière et entraînent la fonte des glaces plus rapidement. C'est la NASA qui le dit, c'est pas moi. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le Los Angeles Times du 26 mars.
Eh bien, changement climatique, je dois vous glisser à l'oreille cette réalité. Eh bien oui, parmi les fameux pays du G8, eh bien, le Canada et les États-Unis qui sont les plus grands consommateurs d'énergie par habitant, et ça, c'est selon Statistiques Canada. Et évidemment, depuis 90, soit les objectifs de réduction de Kyoto sont en référence à l'année 90, je vous en rappelle, eh bien, partout au Canada, dans toutes les régions, on a augmenté notre consommation d'énergie. L'Alberta, haut la main, avec 38% d'augmentation. Le Québec, qui fait un petit peu mieux, mais quand même, qui consomme encore beaucoup trop d'énergie.
À Singapour, depuis le mois de février a été le mois le plus sec depuis 1976, ce qui a amené des feux de forêt un peu partout dans la région. Et qui dit feux de forêt dit pollution de l'air, et surtout dans un endroit comme Singapour où les forêts sont très près de la ville et où en fait le territoire est tout petit. Bref, en finale, l'index de normes polluantes de la ville de Singapour est à 95, et lorsqu'on atteint 100, eh bien, les gens sont très malades. En fait, c'est carrément insalubre de vivre dans l'air où l'index serait atteint 100. Donc, danger à Singapour.
Écoutez, avez-vous entendu parler de ça, vous autres, des consultations privées du ministre des Transports du Québec, M. Després, sur la question des transports en commun? Et ben moi je n'en avais pas entendu parler. Eh bien apparemment il y en a. Et puis c'est la CSN et la FTQ, les deux grandes centrales syndicales, qui sont allées faire leurs recommandations sur le financement du transport en commun au Québec. Et ils y vont de recommandations assez audacieuses, notamment à ce que les commerçants, les employeurs et les entreprises qui bénéficient directement du transport en commun déchargent eux aussi certains frais, payent certaines taxes pour financer le transport en commun qui est sous-financé par le gouvernement provincial, comme ça n'a pas de bon sens. Alors, des propositions intéressantes faites par la CSN et la FTQ.
Depuis 2002, il y a une loi sur l'étiquetage aux États-Unis. Eh bien, c'est cette semaine que la première tranche de cette loi va finalement entrer en action. Tout ce qui est produit de la mer devra être maintenant labellisé. On devra savoir d'où ça vient, comment ça a été produit, et ainsi de suite. C'est un premier pas et vers quelque chose de mieux.
Vers quelque chose de mieux. Plus de temps pour les suites vite. On revient avec la pause pour vous présenter une nouvelle émission. En fait, une émission de télévision 100% écolo. Et on va vous parler un petit peu de ce qu'ils font après la pause. Musical. Bien, vous êtes de retour à Délirium Environnemental. Je vous parlais de cette émission de télévision qui s'appelle 100% écolo, que vous pouvez aller voir sur le canal Vox. Il y a plusieurs présentations. C'est Emmanuel Géin et Chantal Lavoie qui sont à la tête de cette émission, qui vise évidemment une conscientisation, mais de donner plein de trucs intéressants aux différents auditeurs. Et on a décidé de vous parler un petit peu de leur sujet, parce que c'est très intéressant. Il y a une diversité de sujets assez incroyable. Et cette semaine, le sujet, on parle des animaux et de l'environnement. Donc, on a le plaisir de parler à Chantal et Emmanuel. Bienvenue.
Allô, bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 grandes lignes de ces fameuses nouvelles sur les animaux et l'environnement?
Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, on en est à notre deuxième saison quand même. Alors, on a couvert pas mal de terrain, 26 sujets, là, pour ainsi dire, puis il y a une émission d'été aussi en chantier. Alors donc, pour aujourd'hui, on a parlé pour la première fois cette semaine des animaux, ceux qui sont menacés finalement par certaines activités humaines comme le piégeage et le braconnage, et c'est le sujet d'ailleurs de ton reportage, Emmanuel.
Tout à fait.
Et puis, il y a aussi nos animaux qui sont menacés par l'étalement urbain. Alors, on a rencontré bien sûr des gens d'un agent de la faune, de la réserve faunique, des réserves fauniques du Québec, également des parcs nature.
Donc, c'est une réalité très québécoise.
Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté, en tout cas, moi, je l'ai constaté, c'est qu'il y a 300 agents de protection de la faune pour couvrir un territoire immense, celui du Québec, qui fait 1,5 million de kilomètres carrés. Donc, la tâche pour eux est vraiment énorme. Alors, ça laisse la porte vraiment ouverte à du braconnage, activité de piégeage, dont il y a plein de monde qui se donne à cœur joie pour tuer. Bon, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, mais l'ours brun qui est recherché pour
la vésicule.
Seulement oui. Pour leur vésicule biliaire qui est revendue aux Asiatiques parce que ça a des propriétés aphrodisiaques, donc ça c'est fou. Le loup, le lynx aussi qu'on tue juste pour faire nos petits collets de manteau et puis on jette le reste finalement. Donc c'est tout ça qu'on a voulu montrer aux gens qui est vraiment de la réalité du terrain.
Donc les activités de braconnage, ces espèces-là, vous allez également aborder, je crois, ce qu'on appelle peut-être les dommages suite à la domestication des animaux.
Mais c'est ça, en fait.
Ben, d'abord aussi, on se préoccupe de nos petits animaux domestiques également. On a rencontré un docteur de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et donc, on parle des problèmes, par exemple, comme le smog, qui les affecte aussi, évidemment.
Oui, puis nos produits chimiques aussi qu'on utilise. Bon, le liquide lave-glace ou les antigels qu'on met dans nos toilettes ou au chalet, bon, c'est des produits qui sont sucrés, qui attirent les animaux de compagnie, mais en fait, qui sont radicaux, c'est-à-dire que s'ils en boivent, ils meurent, c'est instantané, pratiquement.
Ah oui, dans le cas de l'antigel, très, très toxique. Hein.
Alors bon, c'est des choses comme ça qu'on veut parler, parce que l'émission, faut le dire, c'est on veut être proche du quotidien des gens pour que, finalement, attirer leur attention puis les sensibiliser, bon, on a trouvé le moyen de leur parler de ce qui les touche au plus proche. Alors, c'est leur environnement de travail ou c'est aussi ce qui se passe à la maison. Donc, les animaux, les gens en sont assez proches. Il y en a assez aussi au Québec, des petits animaux de compagnie.
Oui.
C'est un sujet qui nous paraissait important.
Et puis, on parle aussi des règlements également de la Ville de Montréal concernant les chiens, notamment, enfin, nos petits animaux qui vont courir dans les parcs et qui font leur petit caca. Alors, ça aussi, il faut s'en préoccuper. Alors, on a des responsabilités aussi en tant que propriétaire d'un animal domestique.
Et puis, si on s'en va pour les petits animaux qui touchent notre quotidien, ce sont les animaux sauvages aussi, sur lesquels on empiète. On empiète beaucoup sur le territoire d'animaux à cause de la sururbanisation. Et il y a beaucoup de chevreuils ou de tout petits animaux, des moufettes, des ratons laveurs qu'on retrouve dans nos cours.
Et qui sont rendus maintenant diurnes, alors que normalement, ce sont des animaux nocturnes. Mais comme ils fouillent dans les poubelles,
c'est un sujet aussi sur lequel on s'est penché.
Oui, tout à fait.
Également, je crois que vous allez parler des animaux des fermes qui sont bourrés aux hormones. Peut-être juste rappeler aux auditeurs où ils peuvent écouter 100% écolo, quel poste, quelle heure?
Canal Vox, toutes les semaines, un petit peu partout au Québec et à Montréal, on peut être suivi finalement à 19h30 le mercredi,
20h30 le jeudi, 18h le samedi
et 16h le dimanche.
Ce sera disponible sur notre site internet www.radiodrm.net. Vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous.
Première, et je vous invite à regarder cette émission 100% écolo. Nous, on vous revient après la pause avec Monsieur François Meloche du groupe Investissement Responsable. On fait la lumière sur justement qu'est-ce que c'est les fonds environnementaux et les fonds éthiques. Est-ce que ça vaut la peine? L'ABC pour vous.
Los Angeles et New York, là, tout ça ça sans intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est ma tanne, puis Rouen Noranda. Puis peut-être Sudbury, en Ontario.
Environnemental. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. François Meloche. Je vous l'ai présenté avant la pause. Il fait partie du groupe Investissement Responsable de Montréal. Pourquoi on a décidé de parler justement d'investissement responsable? Eh bien, vous savez peut-être que le mois d'avril, c'est entre autres un des mois célèbres pour les assemblées annuelles des différentes compagnies une fois que l'année fiscale est terminée. Et semble-t-il qu'on aurait un moyen en tant que petits investisseurs de faire changer l'agir de ces fameuses entreprises qui ont de grosses répercussions, ne se le cachera pas sur l'environnement et sur beaucoup d'autres choses. Donc, François Meloche, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien.
Magnifique. Peut-être important de cibler pour notre auditeur, qu'est-ce que l'investissement dit responsable?
OK, bien, on peut voir dans l'investissement responsable, il y a trois grandes stratégies. La première étant la stratégie des